Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Entre violence et répression, où que l'on regarde, le Moyen-Orient s'enlise. Une guerre civile de 7 ans qui n'en finit pas dans la Syrie de Bachar el-Assad. Troubles et émeutes en Irak, où la population dénonce la misère et la corruption. Marasme économique, bombe démographique en Égypte. Jadis la grande puissance régionale qui vit au crochet de l'Arabie Saoudite. Riyad, où les ambitions réformatrices du jeune prince héritier sont éclipsées, c'est le moins que l'on puisse dire, par une répression sans merci de toute forme de contestation, jusqu'au meurtre à Istanbul, il y a quelques jours, du journaliste Jamal Khashoggi. L'Arabie Saoudite qui poursuit avec les Émirats une guerre sans fin au Yémen et une guérilla diplomatique contre le Qatar, accusé de financer le terrorisme. Daesh et Al-Qaïda sont toujours présents ici ou là, même si l'État islamique, on le sait, ne contrôle plus de territoire. Partout dans le monde arabe, une jeunesse sans emploi, sans espace politique, dans des sociétés cadenassées où les femmes ont plus de mal encore à échapper à leurs conditions subalternes. Quelles sont donc aujourd'hui les vraies lignes de fracture au Moyen-Orient ? Existent-elles ou prédominent-elles parce qu'elles existent entre sunnites et chiites, entre Riyad et Téhéran, tandis que les mêmes grandes puissances qui, au XIXe siècle, jouaient de leurs influences dans cette partie du monde, la Russie, la Turquie, l'Iran, ne cessent de rivaliser. Aujourd'hui, surtout que les États-Unis ont perdu la main et que l'Europe, à part ses financements, ne joue qu'une influence politique extrêmement marginale. Pour cette émission un peu particulière, enregistrée en public à Blois, le dimanche 14 octobre, j'ai le grand plaisir d'accueillir Gilles Kepel, professeur des universités en sciences politiques, qui dirige la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'École normale supérieure et qui publie ces jours-ci un ouvrage chez Gallimard, « Sortir du chaos, stratégie pour le Moyen-Orient et la Méditerranée ». El-Mouhoub Mouhoud, vous nous faites l'amitié d'être venu à Blois spécialement pour participer à cette émission et nous vous en remercions. Vous enseignez l'économie à l'Université Paris-Dauphine où vous dirigez le Master Affaires internationales. Gilles Gauthier, ancien diplomate, vous conseillez Jack Lang, à qui l'on doit ce festival à Blois, à l'Institut du Monde Arabe. Vous êtes un très fin arabisant et le traducteur attitré des romans de l'Égyptien Ala El Aswani. Son dernier ouvrage, El Aswani était d'ailleurs à Blois ces jours derniers. Le dernier ouvrage vient de paraître chez Actes Sud. Et puis, j'ai pu enregistrer il y a quelques jours un entretien avec Hélène Salon, qui est journaliste au Monde et qui a couvert pour ce journal, entre octobre 2016 et juillet 2017, la bataille de Mossoul et qui a passé plusieurs mois sur le terrain à suivre l'offensive qui a eu raison finalement des ambitions territoriales de Daesh. Gilles Kepel, vous publiez donc une vaste fresque du Moyen-Orient, en fait du monde arabe. Vous allez même au-delà, jusqu'aux frontières de cette Méditerranée qui nous rapproche. Elle est d'autant plus intéressante que elle ramasse plusieurs chapitres de l'histoire contemporaine que l'on a tendance à considérer de façon écartelée. Et vous publiez aussi, ce qui est une très bonne idée, des cartes. Qu'est-ce qui, à votre avis, parmi ces nombreuses fractures dans cette partie du monde, quelles sont celles, à votre avis, qui prédominent, qui sont les plus importantes aujourd'hui ?
En fait, j'ai commencé ce livre parce que on était confronté à un problème. On avait tous anticiper que les soulèvements arabes en 2010-2011 allaient apporter la liberté, la démocratie à cette région après la chute des dictatures en Europe du Sud, après l'effondrement du totalitarisme soviétique. Et puis, bien sûr, quelques années après, on a Daesh d'un côté, le retour de l'autoritarisme de l'autre côté, la guerre civile en Libye, en Syrie, au Yémen, les flux de migrants qui se traduisent avec l'aller-retour des djihadistes des banlieues européennes et françaises en particulier vers la Syrie, par la montée en puissance très impressionnante des votes pour l'extrême droite et une inquiétude très forte, existentielle sur l'Europe. On va avoir des élections européennes en 2019, on a Salvini en Italie, l'AFD en Allemagne, la Hongrie d'Orban, etc. Donc tout ça nous oblige à essayer de penser ce qui s'est passé et de le penser d'une manière aussi rationnelle, aussi structurée que possible, alors que, à mon avis, et notamment dans notre pays, le pouvoir politique a été largement l'otage de charlatans qui ne connaissaient rien à cette région, qui ont pris leurs désirs pour des réalités. Et moi, ce que j'ai essayé de faire...
On nommera personne,
c'est ça. Bien sûr, bien sûr. On est sur France Culture. Et donc, j'ai essayé de remettre tout ça en place et de poser la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas compris et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Tout n'est pas perdu, loin de là. Je pense qu'on peut agir à condition d'avoir de la détermination. Moi, je ne suis pas un homme d'action, je suis un universitaire. Je suis quelqu'un qui essaie de mettre en place une manière de comprendre les événements d'aujourd'hui. Et il m'a semblé important de revenir pour ce livre jusqu'à octobre 73, la guerre dite du Kippour ou du Ramadan, qui voit à la fois la montée en puissance de l'islamisme politique, mise en place d'abord par l'Arabie saoudite et les autres pays de la péninsule arabique, la montée également vertigineuse des prix du pétrole, qui va faciliter le prosélytisme islamiste, et également ensuite l'Iran, la République islamique qui émerge en 79 et qui va créer ce conflit qui est aujourd'hui dominant dans la région, pour répondre à votre question, sur les lignes de faille, entre chiisme révolutionnaire autrefois et sunnisme conservateur. Et ce qui est très frappant, le livre, vous l'avez dit, à Descartes, je peux en parler avec éloge parce que c'est moi qui les ai faites, Descartes magnifique de Fabrice Ballange, qui est un très grand géographe du Moyen-Orient. Et la première carte, c'est la région en octobre 73. Conflit israélo-arabe et conflit est-ouest. La dernière carte, c'est la région en été 2018, avec conflit sunnite-chiite, conflit intra-sunnite, vous avez parlé du blocus du Qatar, et puis des conflits entre la Turquie, aujourd'hui l'Arabie saoudite, à propos de la disparition de Jamal Khashoggi, dont vous avez parlé, et retour de la Russie. Avec cette chose tout à fait étonnante, Vladimir Poutine apparaît aujourd'hui comme le maître du jeu levantin. Un tsar russe qui a finalement quatre épouses, Israël, l'Arabie saoudite, l'Iran et la Turquie. Et
quatre épouses qu'il ne traite pas tout à fait sur le pied un pied d'égalité comme l'exigeraient les sourates du Coran.
Vous avez une vision idéalisée, Christine, une vision idéalisée de l'histoire des harems. Enfin,
vous
savez, ça dépend. On en discutera après l'émission. Et c'est un enjeu extrêmement important. Cette semaine, entre le moment où nous enregistrons et le moment où cette émission sera diffusée, tout peut se passer. Tout peut se passer parce que il y a aujourd'hui encore à Idlib, qui est donc une poche au nord-ouest de la Syrie, toutes sortes de rebelles, de djihadistes et autres, 2 millions de personnes qui ont été mises là. Les Russes ont commencé à les bombarder. Les Turcs ont crié stop parce que sinon il va falloir qu'ils ouvrent leurs frontières et que personne ne veut que les djihadistes passent de l'autre côté. Les Turcs ne peuvent pas accueillir encore des millions de réfugiés. La livre turque s'est effondrée. Et donc on va, l'échéance c'est le lundi 15 octobre. Donc on est aujourd'hui au cœur de toutes les tensions. Et en même temps, la Russie ne peut pas elle-même gérer cette affaire elle-même.
Et encore moins reconstruire.
Non, la Russie a un PIB qui est entre l'Espagne et l'Italie, fonctionne avec des bouts de ficelle, et c'est une pétromonarchie, la Russie, aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils s'entendent si bien avec les Saoudiens, parce que ils se sont arrangés pour faire augmenter les prix du pétrole l'un et l'autre. Mais je pense que c'est là que l'Europe, en particulier, parce que nous sommes les premiers concernés par cette affaire, peut agir. Il faut bien penser, Poutine était colonel du KGB à Dresde en 1989. Il a vu l'effondrement de l'Union soviétique. Plus jamais ça. de son point de vue. Et les Soviétiques sont entrés en Afghanistan, la fleur au fusil, en 79.
Bien
ils
sûr,
sont repartis la queue entre les jambes.
Et ce que vous rappelez très bien dans votre ouvrage, c'est que le djihadisme a été encouragé à l'époque...
Par la CIA.
Par la CIA et par les autres pays occidentaux, puisque c'était une manière de combattre les communistes. El-Mouhoud Mouhoub, ce qui est intéressant aussi dans cette partie du monde qui est dotée des richesses pétrolières, ce qui nous a valu le grand choc pétrolier que rappelait Gilles Kepel à l'instant en 73-74, c'est que ces richesses sont massives, très inégalement réparties, mais qu'elles n'ont jamais provoqué de conflits internes entre ces pays. Mais elles ont créé des clientèles, en quelque sorte.
Alors, tout à fait, le pétrole joue un rôle clé ici, à la fois dans les relations internationales, intra-régionales, mais aussi dans les relations internes. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Pour les questions régionales, il y a deux facteurs clés qui structurent l'intégration de la région. C'est d'un côté le pétrole, effectivement, et les redistributions pétrolières, et de l'autre côté l'émigration. L'émigration en particulier des pays, dans les pays du Golfe. Et en fait, vous avez deux catégories de pays très très différents. Vous avez des pays qui sont très riches en ressources naturelles, c'est les pays du Golfe plus l'Arabie Saoudite, et qui n'ont pas beaucoup de population, sauf pour l'Arabie Saoudite. Et puis les autres sont des pays plutôt qui ont beaucoup de population, certains avec du pétrole comme l'Algérie, l'Irak l'Iran par exemple, et puis d'autres n'ont que de la population, c'est-à-dire que des travailleurs comme la Tunisie, le Maroc, etc. Et donc en fait, tout se passe comme si les migrants allaient vers le Golfe, et le Golfe redistribue l'argent du pétrole vers les autres pays. Donc en effet, c'est quelque chose qui est très 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 important. Mais le pétrole joue un rôle assez paradoxal, parce que d'un côté, il autorise pour ceux qui ont du pétrole le rachat de la paix sociale, le maintien des autoritarismes locaux, etc. Et de l'autre côté, quand il chute, comme ce fut le cas il y a maintenant 3 ou 4 ans, donc en 2013, eh bien, il plonge toute la région dans l'instabilité. Alors, il plonge la région dans l'instabilité tout en permettant à ceux qui n'ont pas de pétrole d'acheter le pétrole moins cher et puis de repartir un petit peu. Et aujourd'hui, on est dans une configuration où, au fond, la reprise du prix du pétrole qui est liée très largement au facteur géopolitique, qui est lié à la question iranienne en relation avec la stratégie
plus
de Trump,
plus le Venezuela,
etc., et qui, à mon avis, est provisoire. Mais cette remontée à peu près de $20 le baril, hein, on est passé à peu près de 50 à 70, 76 aujourd'hui, eh bien, cette remontée, elle donne un petit souffle aux pays qui ont de l'argent, mais elle met en difficulté les autres pays. Donc on est dans une relation en permanence d'instabilité liée à cette ressource pétrolière qui traverse l'ensemble de la région.
Mais il y a des gisements aussi en Méditerranée qui vont changer un petit peu, et notamment pour l'Égypte, qui vont alléger la facture énergétique.
Mais c'est pas pour tout de suite. En attendant, si vous voulez, le constat que je fais de la région, c'est que les facteurs structurels, les fléaux, en quelque sorte, communs à l'ensemble de ces économies, qui ont, été à l'origine de la première grande rupture, celle de 2010 qu'on a appelée les printemps arabes, bien ces facteurs sont toujours là, ces fléaux sont toujours là et ils sont même exacerbés. Et donc les économies, j'en cite quelques-uns, les économies sont peu diversifiées en raison du pétrole, mais aussi du type d'insertion internationale de ces économies. Ça, c'est le premier fléau. Le deuxième fléau, c'est un corollaire du premier, c'est qu'au fond, le fait d'avoir très peu de diversification économique conduit à utiliser très peu la force de travail. Donc, tous les jeunes diplômés sont mis en jachère, ou sont poussés à l'expatriation forcée, ou déclassés sur le marché du travail. Et le taux de participation est l'un des plus bas du monde, et demeure le plus bas du monde. Le taux de participation d'une classe d'âge au marché du travail. Il est à peu près à 40%. Ce qui nous place dans le plus bas niveau mondial, et le taux de participation des femmes lui-même est très très bas, 17 à 20%. Donc c'est le deuxième facteur, et puis le troisième élément clé concerne, pour résumer et ne pas citer l'ensemble des fléaux, mais c'est le fléau de l'autoritarisme et de la corruption et des relations en fait compte de domestication que créent les États avec les entreprises, certaines entreprises qui sont en relation de copinage avec les États et les autres qui sont évincées, et donc on est dans un paradoxe de pays qui ont atteint le stade de revenu intermédiaire, mais qui restent verrouillés dans ce stade de revenu intermédiaire, de pays à revenu intermédiaire, qui n'arrivent pas à passer à une étape supérieure à cause précisément de ces facteurs institutionnels qui les verrouillent dans une situation tout à fait dramatique. Et donc, le constat que je fais, c'est que dans les années à venir, les mêmes problèmes qui ont, les mêmes facteurs qui ont favorisé les ruptures, eh bien, seront encore là et de manière tout à fait amplifiée.
Alors, vous parlez de domestication, mais il y a aussi la vassalisation. Et on voit comment l'Égypte, qui était la grande puissance régionale, même du temps de l'Empire ottoman, l'Égypte est véritablement tenue à bout de bras, Gilles Gauthier, par l'Arabie saoudite, qui finance le trésor égyptien. C'était déjà le cas sous Moubarak. L'Arabie saoudite qui a pesé de tout son poids pour empêcher les frères musulmans qui avaient gagné les élections au moment des printemps arabes de 2011, pour remettre en place un régime militaire avec Al-Sisi. Vous êtes-vous un fin arabisant, je le disais, et en particulier le traducteur d'Ala El Aswani, qui publie donc son dernier ouvrage « J'ai couru vers le Nil », qui précisément a lieu, si j'ai bien compris, au moment
de cette révolution.
De la place Tahrir et de cette révolution particulière. Selon vous, jusqu'à quel point est-ce que le régime égyptien est véritablement tenu en laisse, si j'ose dire, par Riyad ?
Je pense que c'est excessif. Le régime égyptien est avant tout un régime qui incarne la caste militaire qui est en place en Égypte depuis 1952. Cette caste-là qui n'a jamais lâché prise, même comme le montre le roman de Alal Aswani. C'est un roman, hein, bien entendu, donc il y a les personnages, c'est un roman passionnant à lire, mais c'est en même temps très éclairant sur la Révolution. C'est un roman qui montre que la caste militaire a toujours été présente en Égypte. Alors, que cette caste militaire, maintenant, dépende de financements saoudiens, c'est certain, puisque le gouvernement égyptien est même allé jusqu'à céder une partie de son territoire à l'Arabie saoudite, ce qui est quand même énorme.
Alors, il s'agit de ces îlots, donc, au débouché du canal de Suez, l'Arabie saoudite, enfin, en tout cas, le prince héritier, veut établir cette espèce de cité idéale du futur, ou de l'après-futur, où tout ce qui s'appelle Neom, et où tout sera robotisé.
Ce sont des îles que, depuis l'aéroport de Sharm el-Sheikh, on a sous les yeux. C'est vraiment, ça touche l'Égypte.
En même temps, c'est très malin, parce que, si j'ai bien compris, ce serait considéré non pas comme un territoire saoudien à proprement parler, et donc, du coup, tous les édits qui pèsent sur la société saoudienne, et singulièrement sur les femmes, ne devraient pas y être appliqués.
Oui. Mais ça c'est un petit peu cosmétique, c'est dire cet aspect cosmétique. C'est l'essentiel actuellement. Si on parle des lignes de fracture entre les régimes répressifs, je suis absolument d'accord avec les analyses qui ont été faites précédemment. Moi, je vois une ligne de fracture qui a toujours existé, qui existait avant, mais qui est de plus en plus forte. C'est celle qui existe entre des régimes de plus en plus répressifs. C'est-à-dire qu'on a changé de degré. On a changé de degré. En Égypte, par exemple, le degré de répression est incomparablement plus fort qu'à l'époque de Moubarak. On a le régime saoudien qui, auparavant, était une gentille anarchie féodale.
Gentille,
peut-être
pas, tout le monde,
mais en tout cas, il y avait des marges assez grandes de liberté. Actuellement, c'est devenu un régime comme les autres, une dictature comme les autres. La Syrie, n'en parlons pas. Enfin, toute cette région est entre les mains de dictatures militaires, de type militaire. Et face à elle, il y a une jeunesse en pleine révolution, une société en pleine révolution, mais une révolution interne qu'on ne voit pas, c'est-à-dire dans les comportements des gens, dans leur attitude, dans le statut réel de la femme, c'est-à-dire son travail, par exemple, le fait qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, dans les relations. Cette révolution est en cours actuellement. Les changements sont extrêmement profonds, et notamment en Égypte, qui a connu cette révolution.
Et là, les réseaux sociaux jouent leur rôle.
Les réseaux sociaux jouent leur rôle, bien sûr.
On a vu, c'est quand même très singulier, qu'au moment de la place Tahrir, où les réseaux sociaux ont joué leur rôle, et c'était le moment où tout le monde s'émerveillait précisément de cette puissance au service du bien, entre guillemets.
Oui, oui.
Et si j'ai bonne mémoire, l'un des dirigeants égyptiens, l'un des jeunes égyptiens qui travaillait d'ailleurs pour Google,
oui,
est maintenant exilé aux États-Unis,
oui,
et il reconnaît lui-même, enfin, que véritablement les réseaux sociaux se retournent aussi contre ceux qui les manient.
Certainement, mais en même temps, il y a une l'évolution qu'ils ont fait démarrer continue. J'ai une connaissance du monde arabe d'une cinquantaine d'années à peu près. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle Entre deux rives et qui est publié chez Lattès. J'essaie de voir l'évolution de ce monde. Elle est très profonde, mais en même temps, il y a au-dessus, à la surface de ce monde, il y a des institutions qui, elles, n'ont pas bougé depuis la même époque.
Gilles Kepel, j'en profite pour corriger le titre de votre ouvrage que j'avais mal énoncé. Et donc, il s'agit bien de sortir du chaos les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite apparaît comme la grande puissance régionale, et pas seulement à cause de son infinie richesse pétrolière, mais aussi à cause d'ambitions nouvelles d'agir de façon ouverte et non plus feutrée sur le plan géopolitique. C'est ce qu'on a vu avec ce jeune prince héritier qui a été nommé par son père, le vieux roi Salman, qui a maintenant 83 ans, donc ce jeune homme de 33 ans, qui rompt avec la coutume saoudienne qui consistait à passer le sceptre, si j'ose dire, de frère en frère. Donc là, c'est le premier petit-fils du roi fondateur qui est aux marches du trône. Jusqu'à quel point est-ce que cette ambition d'incarner le monde sunnite, de le diriger, en compagnie, si j'ai bien compris, et vous le rappelez dans votre livre, de Mohamed Ben Zayed, qui est l'homme fort d'Abu Dhabi, jusqu'à quel point est-ce que ce leadership est réel aujourd'hui dans le monde sunnite ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'Arabie saoudite était entrée dans une période de déclin politique et la hantise d'un déclin économique à cause de la baisse des prix du pétrole entre 2014 et 2016. Le baril est descendu, je parle sous la haute autorité et le contrôle de mon collègue et néanmoins ami Mouhoud ici, à 25 euros, c'est ça hein?
Un peu plus,
26, 27. Ouais. Donc c'était pour eux une catastrophe absolue. Donc il y a eu deux enjeux. D'abord, il fallait transformer la logique économique de l'Arabie Saoudite, ne plus en faire exclusivement un État rentier. Toute la région toute la péninsule vit de la rente et vit aussi des effets induits de la rente. C'est-à-dire que l'Égypte, comme vous l'avez rappelé, émarge au système rentier saoudien et est simplement maintenu le nez hors de l'eau. Donc ils sont dans un état de très grande fragilité économique. Or, l'Arabie Saoudite est un pays qui est très peuplé. Puisque il y a eu beaucoup d'argent, les Saoudiens ont dépensé de manière somptuaire, la polygamie y est de mise, en tout cas dans la classe moyenne et supérieure, hein, ce qui n'est pas le cas, donc beaucoup de femmes sont venues, et beaucoup d'enfants. Et
10 000 princes. Hein.
Voilà, plus large. Justement, ça c'est la question, c'est que vous aviez une immense famille royale qui émargeait prioritairement à la marge, à la rente, pardon. Et donc du coup, le reste de la population a vu son revenu décroître et un mécontentement est né, en particulier dans la jeunesse. Et l'arrivée au pouvoir de Mohamed Ben Salman se traduit par deux choses. D'abord, le système saoudien veut être efficace. Auparavant, il fallait faire le tour de chaque frère et demi-frère du monarque pour pouvoir faire passer un projet.
Les arroser au passage.
Éventuellement. Surtout, si vous voulez, d'où vient ce problème, cette question ? Dans le monde bédouin, on mourait très jeune à cause de la malnutrition, des guerres incessantes. Et donc, le chef de tribu ne pouvait pas avoir comme successeur ses enfants parce qu'ils avaient éventuellement 4 ans. Donc, c'est la fin. Donc le frère lui succédait et prenait l'ensemble de la tribu sous sa houlette et vice-versa, etc. Or, avec la rente pétrolière, les miracles de la gériatrie à condition qu'on puisse payer, on a eu un système saoudien où les monarques avaient été hors d'âge, 80, 90 ans, très lents dans leur mode de fonctionnement, et le Qatar a très vite compris cette affaire. Et les Qataris, qui sont un petit pays, mais avec une rente gazière gigantesque, ont vu là l'occasion de disputer le leadership sunnite aux Saoudiens en s'appuyant sur les frères musulmans dans le monde entier.
Alors les frères musulmans, donc créés en Égypte en 1928, par le grand-père de Tariq Ramadan.
Effectivement, oui. En 1928, qui ont une vision de l'islamisme politique qui dispute le leadership aux Saoudiens. Donc là, vous avez un conflit qui est important.
Frères musulmans déclarés organisation terroriste par les Saoudiens, par les Émiratis, en gros après le 11 septembre.
Voilà, et par l'Égypte aujourd'hui. Et donc, on a dans cette configuration la volonté du prince héritier saoudien à la fois de rendre le système efficace. Donc aujourd'hui, vous avez un jeune homme de 32 ans qui prend les décisions. Il n'y a plus besoin de consulter X personnes. Et l'objectif, c'est de lutter contre l'emprise du Qatar. Si vous voulez, qui taillait en permanence des croupières aux Saoudiens en utilisant sa chaîne.
Qui dispose d'Al Jazeera.
Voilà, et j'allais le dire, qui disposait de sa chaîne Al Jazeera, chaîne qui a exercé une sorte de fascination sur le monde arabe quand elle est née après 96, parce que pour une fois, c'était pas juste quand j'étais étudiant d'arabe à Damas, il y a, je n'ose pas dire combien de temps, mais il y a déjà plusieurs décennies. On regardait la télé arabe et on s'était mis en grève contre le directeur de l'institut parce que c'était toujours la même chose. C'était aujourd'hui le président Hafez al-Assad a reçu, ça s'appelait en arabe, Estaqbal al-Rais Hafez al-Assad al-Yom, donc, etc. Il y avait les gens qui serraient la loupe, c'était catastrophique. Al Jazeera a fait le ménage dans tout ça, a trouvé des choses modernes, mais en réalité, derrière, vous avez les intérêts du Qatar et les intérêts des frères musulmans. Pendant les soulèvements arabes, ou le printemps, Al Jazeera, en fait, insidieusement, a fait des frères musulmans les porte-parole de ces mouvements. Donc, s'était forcé de tirer ces soulèvements arabes vers les frères, de les mettre sous le leadership à la fois du Qatar et de la Turquie. On réussit ainsi à favoriser l'élection de Morsi en Égypte, ce qui a représenté pour l'Arabie Saoudite, pour les Émirats et quelques autres, un péril mortel pour le leadership sur le monde sunnite. Du coup, ils ont aidé à la fois les soulèvements populaires contre les frères et la reprise en main contre l'armée qu'on voit aujourd'hui. Et alors le leadership de Mohamed Ben Salman que vous avez mentionné avec toutes ces dimensions hein, pour et contre aujourd'hui se positionne en ligne de force contre l'Iran et bénéficie d'un soutien à ce jour quasi infaillible des États-Unis de Donald Trump.
Ce qui est intéressant, c'est la rivalité grandissante avec la Turquie d'Erdogan. Et dans les détails donc que les officiels turcs ont distribué aux médias internationaux après la disparition, donc c'était le 2 octobre dernier, de cet éditorialiste saoudien Jamal Khashoggi, on voit Erdogan lui-même n'a pas été jusqu'à dire « oui, c'est l'Arabie saoudite qui l'a fait assassiner, et vraisemblablement dans des conditions atroces ». Mais on voit bien que Recep Erdogan lui-même veut apparaître comme le patron du monde sunnite, et d'ailleurs il a repris en particulier le flambeau de la cause palestinienne, c'est quand même assez nouveau, monsieur.
Voilà, il se présente d'une certaine manière comme le successeur du calife ottoman. Oui. Et d'ailleurs, en turc, on appelle leader d'Anyasa, c'est-à-dire le leader de l'univers. C'est assez compliqué à jouer quand même. Moi, j'étais en Turquie au mois d'avril. On payait 5 livres turcs pour un dollar. J'y étais il y a 3 semaines. C'était 7 livres et demi pour un euro, 7 livres et demi pour un euro. Donc, on est dans une situation économique extrêmement compliquée pour la Turquie à gérer. Et la Turquie, qui a énormément investi, qui a énormément emprunté en devise doit désormais rembourser. Donc elle se trouve dans une sorte de goulot d'étranglement. Vous avez vu le conflit avec les États-Unis. Ils avaient arrêté un pasteur américain accusé d'espionnage.
Qui a été libéré il y a quelques
jours. Voilà, en échange éventuellement de l'extradition de Fethullah Gülen, un prédicateur turc exilé aux États-Unis, dont Erdogan considère qu'il est derrière la tentative de coup d'État contre lui. Effectivement, la chute de la livre est telle que le pasteur a été libéré. Donc vous voyez que parfois la religion
et le commerce font bon ménage. Trop bousculer les Saoudiens qui investissent beaucoup, en particulier dans l'immobilier en Turquie.
Vous avez raison, il y a ça. Et il y a aussi le paradigme que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui, la solution du Moyen-Orient, c'est le Levant. Comment est-ce qu'on peut reconstruire le Levant? Et comment est-ce que Poutine, qui fait une sorte de management de crise en s'appuyant sur les Israéliens, les Saoudiens, les Turcs et les Iraniens, peut arriver à ça? Et pour les Turcs ont surtout la volonté qu'il n'y ait pas de massacre à Idlib, pour des raisons qui sont aussi géopolitiques. Il faut qu'ils ouvrent leurs frontières, dans ce cas-là, parce qu'il y a une catastrophe humanitaire.
Et qu'ils empêchent les Kurdes, en particulier, d'avoir une continuité territoriale.
Et puis, ils ont 2 millions de réfugiés. C'est ingérable aujourd'hui. Il y a plusieurs centaines de djihadistes français, aujourd'hui, encore à Idlib. Imaginez qu'ils traversent la frontière. Après, on va essayer de leur courir derrière, mais certains peuvent revenir, notamment dans les Alpes-Maritimes, où vous avez leur principal chef qui est là-bas. Donc, tout ça est extrêmement délicat. Et Monsieur Erdogan, avec ses immenses ambitions aujourd'hui, ne peut pas antagoniser au-delà d'un certain point l'Arabie Saoudite. Vous voyez, donc c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. J'ai essayé dans le livre justement d'établir ce qu'étaient les positions de chacun, de quelle carte ils jouaient. Vous avez cette chose ahurissante que Israël et l'Arabie Saoudite sont à peu près d'accord sur tout. En Syrie, se trouve, j'étais en Arabie Saoudite en février, quand le Damas, qui était assiégé par des milices philo-saoudiennes dans la banlieue qu'on appelle la Routa, qui est un peu le 9-3, si j'ose dire, de Damas, le régime syrien avec les Russes les ont réduites, et on m'a fait comprendre à Riyad, au plus haut niveau, que on lâchait complètement les gens qu'on avait avant. On n'a plus de problème pour que les Russes, avec qui on faisait le deal pétrolier, prennent la haute main, mais surtout pas les Iraniens. Et même chose un petit peu avant en Israël, où on le trouvait quand Bibi Netanyahou était à Moscou, et on m'a dit, bon, finalement, les Russes, il faut simplement qu'on partage le ciel avec eux, parce que Israël était le maître du ciel jusqu'alors. Maintenant, ils ont les S-400, c'est-à-dire les missiles air-sol
plus
russes.
Plus le Hezbollah.
Voilà, tout à fait. Et là aussi, OK pour Assad, éventuellement, OK pour les Russes, mais surtout pas d'Iraniens.
Revenons à la disparition de ce journaliste saoudien, Eric Scholl. Bonjour, vous dirigez Courrier International, notre partenaire, et vous avez trouvé dans la presse internationale l'évocation des détails qui restent assez mystérieux. Qu'est-ce qui est arrivé à ce malheureux, même si, comme je le rappelais tout à l'heure, les officiels turcs ont donné beaucoup de détails absolument terrifiants, d'ailleurs.
Pour le moment, il y a plusieurs hypothèses. La plus probable est effectivement celle de son meurtre présumé. En tout cas, il n'y a pas que sa disparition qui reste à ce jour mystérieuse. Le personnage lui-même a fait l'objet de nombreux articles ces derniers jours dans la presse arabe ou occidentale, et qui ne décrivent pas toujours le même homme. Par exemple, le journaliste britannique David Hurst, qui connaissait bien Jamal Khashoggi, dresse le portrait d'un vrai démocrate dans le journal Middle East Eye. Alors, quand même, petit mot sur Middle East Eye, il faut le préciser que c'est un site d'information spécialisé sur les questions du Moyen-Orient, édité à Londres, et qui reçoit des subventions du Qatar. Alors, David Hurst écrit dans Middle East Eye, tout ce qui comptait pour lui, c'était la vérité, la démocratie et la liberté. Il s'est toujours considéré comme un journaliste et non comme un militant. Jamal Khashoggi était tout sauf un débutant. À 59 ans, rappelle Bloomberg, ce journaliste saoudien avait déjà derrière lui une longue carrière au Moyen-Orient. Il est passé par l'Afghanistan dans les années 80, où il a d'ailleurs croisé Oussama Ben Laden. Quand l'attentat du 11 septembre 2001 se produit, il est alors rédacteur en chef adjoint du titre saoudien Arab News et son expertise sur Al-Qaïda va être très recherchée. Preuve de son indépendance, il sera viré à deux reprises de son poste de rédacteur en chef dans le journal saoudien Al-Watan. Et lorsque, plus récemment, Mohamed Ben Salman devient le prince héritier en juin 2017, eh bien Khashoggi comprend qu'il est temps de quitter le royaume car il ne veut pas être arrêté, raconte Bloomberg. Depuis, il n'a cessé de garder son œil critique sur l'évolution récente de l'Arabie Saoudite, comme par exemple lorsqu'il publie cette chronique, c'était en février dernier dans le Washington Post, et dont je vous lis un extrait. Certes, MBS va dans la bonne direction s'il s'apprête à rationaliser la maison de Saoud, à tailler dans une famille royale aux rivalités dignes de Game of Thrones, mais il ne devrait pas négliger l'importance d'hommes d'expérience tel le prince Turki Al-Faisal, ancien ambassadeur.
Oui, et donc Turki Al-Faisal, dont Khashoggi avait été le conseiller. Et en fait, le personnage Khashoggi a une épaisseur politique réelle.
En tout cas, c'est ce que raconte le journal britannique The Spectator, qui nous dévoile une partie des secrets qui entourent ce journaliste dissident, intitulé « Ce que les médias ne racontent pas à propos de Jamal Khashoggi ». Cet article est en fait à charge contre Khashoggi, il l'accuse d'être lié aux services de renseignement arabes et occidentaux, d'être resté très proche des frères musulmans, et en réalité n'avoir jamais été, je cite, attiré par la démocratie pluraliste de type occidental. The Spectator raconte que Khashoggi n'a pas exercé effectivement seulement le métier de journaliste dans sa vie, puisque à deux reprises, il a conseillé ce fameux prince Turki Al-Faisal quand celui-ci fut ambassadeur à Londres et puis à Washington, le même prince qui auparavant avait été le patron des renseignements saoudiens, relève The Spectator, ce qui fait dire à son auteur Khashoggi a certes été journaliste dans les années 80, mais il est devenu plus un acteur qu'un spectateur.
Donc un règlement de compte, ou en tout cas un meurtre à dimension politique.
Entre les informations qui sont diffusées depuis une semaine par la presse turque et les contre-feux allumés par Riyad, il est encore très difficile aujourd'hui d'y voir clair. Ce qui est vrai, c'est que le journaliste du Spectateur n'est pas un novice. Il s'agit de John Bradley, excellent connaisseur du Moyen-Orient, et qui a lui-même travaillé à une époque avec Khashoggi comme journaliste. Il y a certainement d'ailleurs donc des choses justes dans cet article. Khashoggi a effectivement travaillé pour l'ancien chef des renseignements saoudiens, mais il y a aussi beaucoup d'hypothèses, comme par exemple son embrigadement chez les frères musulmans. On a vu ces derniers jours des intellectuels arabes voler au secours de Khashoggi. C'est le cas d'Abdul Rarek Abdullah, qui est un universitaire des Émirats Arabes Unis, et qu'on ne peut pas soupçonner lui d'être un proche des frères musulmans. Or, cet intellectuel a balayé sur la chaîne arabe CNN les rumeurs persistantes sur l'affiliation de Khashoggi aux frères musulmans. On le voit, entre les rumeurs et la propagande, il ne va pas être facile de faire la lumière sur les raisons de cette disparition et évidemment sur ce qui s'est passé le 2 octobre dernier dans ce consulat saoudien d'Ankara.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Gilles Kepel, venons-en au djihadisme et au terrorisme international qui a cruellement frappé, particulièrement en France, et qu'il ne faut pas évidemment considérer, que, hélas, comme un chapitre clos de cette histoire qui nous est devenue commune. Vous rappelez dans votre livre les différentes étapes, les différentes phases du djihadisme, pour en venir à la situation aujourd'hui concernant Al-Qaïda et Daesh. Ces organisations n'ont pas disparu.
Non, pas du tout. Mais sans vouloir bousculer outre mesure votre conducteur, Christine, il se trouve que j'ai très bien connu Jamal Khashoggi, ainsi oui. que la plupart des personnages que vous avez mentionnés, que ce soit le prince Turki Al-Faisal, Abdul Khalek Abdallah, etc. Quelques points. Je crois que la présentation d'ensemble que vous avez faite était juste. Khashoggi était frère musulman, il ne l'a jamais caché. Oui. Il a été formé parmi les frères. Qu'après il s'en soit distancié, c'est bien évident, puisqu'il a été effectivement le conseiller du prince Turki, et c'est grâce à lui que je l'ai connu. C'était quelqu'un d'extrêmement affable, alors au Moyen-Orient, être affable avec tous les Occidentaux, ça peut dire plein de sortes de choses. Hein. Mais on avait, c'était certainement quelqu'un qui avait une excellente connaissance de la région. Ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il est devenu après, à partir du moment où il était opposant au prince Mohammed Ben Salman, les relations qu'il pouvait avoir avec le Qatar, tout ça, je n'en sais rien. Moi, je l'ai connu avant. Mais en tout cas, c'était une personnalité qui était extrêmement importante dans la représentation que l'on pouvait se faire. Et c'était quelqu'un qui n'hésitait jamais à fournir des informations aux journalistes qui en étaient en manque. Donc, c'est ma petite contribution au débat.
Non, alors, mais qui ajoute encore une fois... non pas à l'épaisseur du mystère, mais à la dimension véritablement politique. Et ça nous ramène au problème du djihadisme, parce qu'en fait, le berceau idéologique, autant d'Al-Qaïda que de Daesh, c'est bien cette fusion, si j'ose dire, entre le wahhabisme, donc la version intégriste de l'islam saoudien,
et
les frères musulmans, et la version politisée.
Voilà, et surtout cette espèce de fusion entre l'un et l'autre qui, dans les aspects les plus radicaux, donnera le djihadisme. Ce qu'on appelle le salafisme djihadisme naît pendant le djihad afghan, dont vous avez parlé tout à l'heure, donc pendant les années 1980, entre d'un côté des individus qui ont été nourris dans le salafisme saoudien, Osama Ben Laden étant son symbole, et des gens qui ont été nourris dans la version radicale des frères musulmans égyptiens, Ayman al-Zawahiri. Et c'est ça qui va créer Al-Qaïda, d'accord ? Donc, aujourd'hui, ce qui se passe en Arabie Saoudite, il y a aussi une autre dimension, hein, pas outre tout ce que vous avez dit jusqu'alors, c'est la volonté explicite du leadership saoudien aujourd'hui de cesser de financer les réseaux salafistes, entre guillemets, suspects. Ouais. Parce que jusqu'alors, il y avait toute une zone grise, disons, entre les deux. Alors, maintenant, est-ce qu'il faut prendre ce qui nous est dit par nos interlocuteurs saoudiens, comme on dit en anglais, at face value, c'est-à-dire y faire confiance, ou au contraire estimer que c'est une manipulation, que en réalité il faut qu'ils s'appuient sur eux contre les Iraniens, l'histoire le dira. Mais en tout cas, si on regarde sur les réseaux sociaux islamistes la manière dont la monarchie saoudienne aujourd'hui est vilipendée alors qu'elle était autrefois adorée, on peut penser qu'il y a quand même aujourd'hui dans le royaume un assèchement net et voulu du financement de la mouvance djihadiste internationale. Et ça, si c'est le cas, si ça s'avère, évidemment, ça change beaucoup les données du problème.
Et c'est essentiel.
C'est un élément fondamental. Alors après, ça ne veut pas dire, quand on dit ça, qu'on est pour ou contre. Moi, j'essaie d'analyser les choses aussi objectivement que je peux. Pour ce que votre question sur Daesh et Al-Qaïda, donc en fait, la machine Al-Qaïda, le modèle Al-Qaïda devient obsolète au milieu des années 2000. C'est-à-dire que la machine du djihadisme par le haut, c'est-à-dire on envoie 15 Saoudiens et 4 autres dans des avions au-dessus des États-Unis pour percuter le World Trade Center, le Pentagone et le Congrès, mais pour le dernier, vous savez qu'il y a, l'avion tombe dans un champ parce que les passagers sont révoltés. Donc tout ça crée un buzz médiatique extraordinaire. C'est le langage de Hollywood qui s'impose dans le 20h, et du coup, mais à l'époque, on regardait encore la télé, vous savez.
Et surtout le 20h.
Oui, j'ai demandé, oui, ça c'est quand vous... Oui, mais ça, Christine, nous parlons d'une époque. Et vous savez que j'ai demandé à...
Je rappelle pour que ceux qui s'étonnent du brouhaha dans la salle, que nous enregistrons cette émission à Blois, oui. En public.
Devant voilà. Un public qui regardait le 20h.
Pardon, Gilles, mais il faut que nous accélérions. Donc, Al-Qaïda, on a compris, il y a encore quelques poches, et notamment au Yémen. Daesh, oui, qui est une organisation irakienne au départ, donc n'a plus de territoire, mais elle n'a pas disparu non plus.
Voilà, elle a perdu quand même sa capacité de coordination. Hein. Avec la chute de Raqqa qui advient le 17 octobre, donc deux jours après l'enregistrement et trois jours avant la diffusion de cette émission, il y a un an exactement, c'est une ligne de partage des eaux. À partir du moment où Raqqa tombe, la machine à organiser des attentats en France, de manière structurée et efficiente, malheureusement, comme le Bataclan, par exemple, Saint-Étienne-du-Rouvray, Magnanville, tout ça s'effondre. Les gars se font tous droner les uns après les autres. Maintenant, il reste des gens qui ne sont plus organisés de la même manière. Il y en a plein dans les prisons en France. Il y en a un paquet encore qui reste en Turquie. Il y en a dans la zone d'Idlib, d'où la question majeure de savoir si on va ouvrir ou non la frontière. Il y en a dans les prisons des Kurdes du nord de la Syrie. Et ça, c'est un élément très important qu'utilisent justement les Kurdes pour négocier leur survie politique dans le système. Il y en a près de des réseaux. Si on regarde ce qui se raconte aujourd'hui sur les réseaux, entre eux, ils sont plutôt down. C'est-à-dire qu'ils ont perdu. Pourquoi ils ont perdu? Dans leur esprit, dans leur vision du monde, c'est qu'ils ont péché. Ils ont péché. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'Allah les punisse? Mais ils n'ont pas renoncé du tout à leurs ambitions. Cela étant, à ce stade, on ne voit pas émerger encore un nouveau mode opératoire, si vous voulez, qui pourrait se substituer à celui qui a échoué avec la chute de Raqqa.
J'ai demandé il y a quelques jours à Hélène Salon, qui est une jeune journaliste du Monde, très courageuse, qui a couvert en Irak la chute de Mossoul, qui était la deuxième grande ville irakienne qui était tenue par Daesh. Et je lui ai demandé jusqu'à quel point Daesh, qui a raflé énormément d'argent pendant toutes ces années, jusqu'à quel point Daesh est encore présent en Irak et singulièrement dans l'économie irakienne. Hélène Salon.
En fait, la victoire militaire a été déclarée en décembre. Donc, c'est-à-dire que depuis décembre 2017, Daesh ne contrôle plus de territoire en Irak. Mais en fait, comme vous le disiez, c'était l'objet d'un reportage que j'avais fait. Depuis, en fait, son apparition en 2014, déjà dans les zones qui n'ont jamais été sous son contrôle, donc des zones qu'on dit grises, par exemple entre ce que je disais au nord de Bagdad, entre Bagdad et Samara, là où ils ont été arrêtés, on a eu tout le développement d'une microéconomie. Donc ils avaient en fait déjà pensé, dès même leur expansion et leur apogée, peut-être la perte du califat et le besoin de générer des ressources supplémentaires. Donc ils ont investi dans toute une série de micro-entreprises, et on pense beaucoup au nord de Bagdad, aux fermes piscicoles, parce qu'on élève les carpes. Les Irakiens raffolent de carpes qui grillent, qu'ils appellent le masgouf. Donc il y a toutes ces fermes piscicoles. Ils ont investi, alors c'est assez intelligent parce que c'est soit en plaçant des hommes à eux, soit en gérant, en mettant des gérants ou en subventionnant des paysans qui sont parfois même chiites et qui ne savent pas du tout qu'ils sont en train de travailler et d'être subventionnés par l'État islamique. Donc il y avait tout un réseau qui a été démantelé au fur et à mesure des années. Donc en 2016 par exemple, il y avait eu une grande opération de démantèlement avec 400 fermes qui avaient été, les forces de sécurité étaient entrées dans ces fermes.
Néanmoins, cette présence économique, financière est très très difficile à tracer.
C'est très difficile à tracer parce que c'est des petites sommes. C'est comme ça passe aussi aujourd'hui par des bureaux de change où ils transfèrent les sommes grâce à des bureaux de change, et ils sont assez intelligents. Ils savent qu'il ne faut pas que ce soit repéré, que ces flux soient repérés. L'Irak s'adapte, renforce ses lois, et donc c'est des petites sommes, ça peut être 5 000 $, qui sont données à des hommes pour faire fructifier dans une micro-entreprise d'import-export, et qui vont comme ça fructifier et servir à payer les familles des martyrs ou des combattants tués qui ont disparu, des opérations pour des cellules clandestines, parce que maintenant, on a partout en Irak, dans les zones qui ont été libérées, la résurgence de petites cellules clandestines, qui sont de 5 à 10 hommes, 10, 15 hommes, et qui n'ont pas besoin de gros moyens pour perpétrer des attaques, des kidnappings, et qui font du racket aussi. Maintenant, on l'observe, c'est en train de reprendre de l'ampleur dans les zones libérées, le racket de la population.
Avec le label État islamique
ou... Ils ne disent plus rien. Ils s'installent, en fait, il y a même des anciens combattants ou des anciens sympathisants qui s'installent dans les villages qui ont été abandonnés, où les réfugiés ne sont pas revenus. Et ils sont insoupçonnables, ils ne mettent aucun drapeau, ils s'habillent normalement. Et pour faire le racket, par exemple, ils envoient des femmes en abaya, en grand voile noir. Donc, ils ont comme ça des vieillards ou des femmes qui jouent le rôle un peu d'intermédiaires. Mais eux restent insoupçonnés, ils ne s'affichent plus, mais ils sont bien présents. Ils regagnent du terrain, car progressivement, ils grignotent ces territoires qu'ils ont perdus ou qu'ils n'ont jamais eus. Donc, ils se développent en petites cellules. Ils ont des intermédiaires qui les aident à faire du racket, ou à faire les messagers entre cellules. Alors, c'est des cellules de 10-15 personnes et ils sont intraçables.
El Mouhoud, arrêtons-nous un moment sur l'Irak, parce que c'est un pays riche, l'Irak, qui est le deuxième exportateur de pétrole, en principe. Le pétrole, le prix, vous nous le rappeliez, a monté. Je lisais quelque part que les revenus de l'État irakien ou de ce qui en tient lieu sont au plus haut. Et néanmoins, il y a des émeutes, la population proteste, il y a une corruption généralisée, il y a un nouveau gouvernement depuis quelques jours dans cet équilibre difficile entre les chiites qui sont sous la coupe de l'Iran, le président du Parlement qui est sunnite et le président qui est kurde, mais enfin le pouvoir en principe c'est le Premier ministre qui est donc chiite. Jusqu'à quel point est-ce que cette économie irakienne peut calmer en quelque sorte l'impatience populaire ?
Alors, en fait, c'est représentatif des pays pétroliers moyens revenus de la région. Ils ont l'Irak comme l'Algérie comme l'Iran ont un revenu par tête d'à peu près 3 000 à 3 500 dollars. Contre 30 000 pour les pays du Golfe. Donc on voit la différence, hein, c'est des écarts énormes. Et donc l'Irak a eu quand même subi une destruction majeure, avec une reconstruction sur des bases institutionnelles, un peu plaquées de l'extérieur de toute manière.
Un peu à la libanaise.
À la libanaise, exactement. Enfin. Et donc en fait, quand je dis que c'est représentatif de la région, c'est parce que dans toute la région, il y a un décalage énorme entre les indicateurs macroéconomiques que vous pouvez avoir, par exemple la croissance à un moment donné, là elle reprend, elle va être à 3% pour l'ensemble de la région, et encore une fois, les éléments structurels qui ont marqué les ruptures de 2010-2011. Ces éléments structurels pour l'Irak sont toujours exactement les mêmes, puisque c'est une économie encore pétrolière peu diversifiée. Bien, la masse de la population est dans une situation d'attente, de sans emploi ou avec un taux d'emploi très bas, un secteur informel qui s'est également développé, et donc des éléments effectivement de crise qui s'ajoutent aux facteurs spécifiques à ce pays, qui est le transvasement en quelque sorte de la domination sunnite à la domination chiite. Donc on a toutes les frustrations en plus qui sont spécifiques à cette région.
Et avec des meurtres de femmes ces dernières semaines, enfin de femmes qui avaient une position sociale ou une position sur les réseaux sociaux qui les rendait visiblement occidentalisées. Donc
Là, on est encore par rapport à d'autres pays de la région dans une économie encore une fois reconstruite par la présence étrangère extrêmement forte, et donc les éléments les forces obscures agissent effectivement soit contre les femmes, soit contre les homosexuels dans certains cas, etc. Donc on a une société qui est effectivement complètement verrouillée et qui est à l'origine finalement de la situation syrienne et de la situation également de l'immigration internationale, des migrations de demandeurs d'asile massifs qui sont arrivés depuis 2014-2015. C'est ce choc-là. Là, il y a une spécificité irakienne par rapport aux autres pays de la région. Je dirais que les attentes des populations, les attentes des masses sont extrêmement fortes, au sens où le pacte interne entre les élites et les élites, je veux dire la masse des jeunes diplômés, hommes et femmes, et les États qui détiennent le pouvoir, a rompu définitivement. Et donc la rupture de ce pacte interne, c'est ce que nous disions tout à l'heure, crée les éléments d'une rupture en attente, d'une nouvelle rupture en attente. Il faut se méfier de l'idée que le retour autoritaire féroce soit ferme définitivement la scène. La scène est encore là. La seule chose qui maintient le système et qui stabilise en quelque sorte ces régimes autoritaires, je dirais que c'est la question du pacte externe. Et le pacte externe, c'est le pacte que passent ces pays, je ne parle pas des pays, mais
régimes.
Des pouvoirs, des régimes, avec les partenaires occidentaux qui sont revenus après une période transitoire de parenthèse où ils louèrent le printemps arabe en disant voilà la révolution, etc. Mais ils reviennent aux fondamentaux qu'ils n'ont jamais quittés, c'est-à-dire le soutien massif à ces régimes autoritaires, que ce soit Al-Sisi au Maghreb, un certain nombre de pays. Donc le seul pays qui est dans une transition démocratique mais qui n'a pas connu la transition économique malheureusement, c'est la Tunisie. Et la Tunisie est en situation de fragilité majeure, non pas à cause du compromis historique qui a marché sur le plan politique et qui est en situation situation de transition démocratique absolument important qu'il faut soutenir, mais à cause de sa situation économique qui est extrêmement fragile et aussi sécuritaire, qui fait que si effectivement l'Algérie était en situation de difficulté, eh bien ça se traduirait par une remise en cause de la stabilité tunisienne immédiatement.
Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un pays qui subit une guerre, une catastrophe humanitaire à grande échelle, c'est le Yémen, Gilles Gauthier, un pays où vous avez été ambassadeur de France, oui. Donc un pays que vous connaissez bien. Et la situation est d'autant plus difficile, en quelque sorte, qu'il y a l'Arabie Saoudite et ses alliés émiriens, les émiriens étant d'ailleurs bien meilleurs que l'aviation saoudienne poursuivie pour crime de guerre. Hein, parce que, cela dit, les Houthis ne sont pas non plus des gentils, et soutenus par l'Iran, qui voit là une manière de, à bas coût, en quelque sorte, de menacer l'Arabie saoudite sur son flanc sud. Jusqu'à quel point, selon vous, est-ce que ce drame, mais aussi cette situation difficile sur le plan géopolitique, favorise en fait l'implantation des cellules terroristes, parce que c'est là où elles se sont réfugiées.
Oui, je voulais faire le lien avec la présence de territoires entiers qui sont entre les mains d'Al-Qaïda ou de Daesh ou de mouvance djihadiste. Et il est amusant, enfin amusant, pas amusant, mais il est intéressant de voir que l'emprise de ces mouvements était totale, y compris sur les villes, des grandes villes comme Mukalla, c'est une ville assez importante, était entre les mains. Et puis, il y a eu un retrait négocié, probablement, avec les Émiratis, hors de ces villes. Mais le terrain est tenu. Le sud est globalement tenu par la mouvance djihadiste, avec une petite exception qu'il existe également un mouvement autonomiste, un mouvement indépendantiste, plutôt autour d'Aden. Mais ailleurs, les immenses territoires de Hadramaout sont un territoire qui peut du jour au lendemain devenir un territoire autonome. Il y a eu déjà des territoires autonomes de ce type. C'est pour ça que la guerre à que mène l'Arabie Saoudite et surtout les Émirats, qui effectivement sont beaucoup plus efficaces, est extrêmement dangereuse. Et c'est pour ça que je m'inquiète un peu de voir l'immobilisme des grandes puissances, et notamment de la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, qui à L3 pourrait certainement faire quelque chose. Voir cet immobilisme est extrêmement dangereux. On se réveillera un peu trop tard, je crois.
Gilles Kepel, on arrive déjà à la conclusion très provisoire de cette émission, enregistrée, je le rappelle, à Blois, à l'occasion des rendez-vous de l'histoire, émission enregistrée en direct, donc dimanche 14 octobre, et diffusée samedi, comme tous les samedis pour Affaires étrangères. Ce jeu des grandes puissances, jusqu'à quel point est-ce que Washington, Donald Trump, a perdu la main à force d'être proche, en particulier, de Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien? Et ce sera rapidement notre conclusion provisoire.
Et de Vladimir Poutine. Et de puisque Vladimir. Le livre s'achève justement sur la rencontre à Helsinki cet été entre Poutine et Trump. Et Trump, très gêné aux entournures, puisque finalement, il y a eu que des influences russes qui sont en train d'être étudiées et investiguées, comme on dit en anglais, aux États-Unis pour l'élection, fait que la relation russo-américaine au Moyen-Orient est extrêmement compliquée, comme si Trump ne pouvait pas véritablement assumer sa position face à Poutine. Pour l'instant, les États-Unis ont surtout retiré leur signature à ce qu'on appelle le JCPOA, c'est-à-dire l'accord qui permettait aux Iraniens de retrouver un accès à l'économie mondiale en échange du démantèlement de leur système nucléaire. Et ça s'est marqué par une baisse considérable des exportations de pétrole iranienne. Donc l'Iran est considérablement affaibli aujourd'hui.
Mais ça ne veut pas dire que Washington ait nécessairement une stratégie d'ensemble.
Et alors ça, c'est la question. sous les tweets.
Mais rapidement, pardonnez-moi, parce que nous arrivons véritablement à la fin.
C'est une vraie question. On pense à Trump comme un idiot qui tweete tous les jours en regardant Fox News. C'est peut-être pas aussi simple que ça.
C'est
peut-être la surface des choses. On voit bien qu'il y a quand même une stratégie qui est d'abord de mettre l'Iran à genoux et probablement ensuite de trouver un deal avec les Européens et les Russes pour la question du Levant. Dans quelle mesure va-t-il le faire? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est là qu'on en est aujourd'hui.
En tout cas, un excellent encouragement à lire, Gilles Kepel, votre ouvrage, Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient. Je rappelle que c'est chez Gallimard. El Mouhoud, vous avez publié L'immigration en France, mythes et réalités chez Fayard l'an dernier. Gilles Gauthier, Entre deux rives, 50 ans de passion pour le monde arabe chez La Thèse. Je remercie aussi Hélène Salon qui a publié L'État islamique de Mossoul à la découverte cette année. Merci à Eric Scholl et bien sûr aux équipes des Rendez-vous de l'Histoire de Bois, aux équipes de France Culture et de Radio France, à la réalisation Luc-Jean Reynaud avec Fabien Gosset, Marcos Darras, Alexandre James, Jean-François Georges, Franck Malabry, Daniel Luizon, à la préparation comme chaque semaine. Bien sûr, Meryl Moneghetti. Et comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end.